Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h49, si vous voulez partager en tout cas l'actualité, la commenter, 0826-300-300 avec aujourd'hui nos éditorialistes. Elisabeth Lévy est avec nous et puis Michel Taube est avec nous ce matin, fondateur du site Opinion Internationale. Et je rappelle que vous pouvez aller voir son édito sur son compte Twitter.
Oui, et qui est particulièrement intéressant et on en parlera. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir à cet édito tout à l'heure vers 9h15, 9h30, hein, qui est autour de PSG, Kaboul et le Qatar, qui évidemment est au centre de l'actualité, hein, puisque les négociations avec les talibans, ça se passe via le Qatar. Et puis, il y a le PSG. Et vous reviendrez sur un peu la genèse aussi, hein, à l'époque avec Nicolas Sarkozy, c'est particulièrement intéressant. On viendra aussi tout à l'heure à 9h sur Marseille, bien sûr. Quels moyens à Marseille, avec Emmanuel Macron qui va sur place là-bas. On réclame, je le disais, des policiers, mais également rénover les écoles. Il va y avoir un grand plan. Et puis des magistrats, parce que c'est pas le tout aussi d'interpeller en fait des délinquants, c'est qu'il faut être capable de les juger, et là on manque un peu de moyens. On verra ça dans le factuel avec Félix Mathieu et avec une magistrate qui sera avec nous. Juste un mot peut-être aussi, parce que quand même c'est la rentrée des enseignants aujourd'hui, les profs, il y a toujours un malaise quand même avec nos profs. Je sais pas ce que vous en pensez, Elisabeth Lévy. On dit que eux-mêmes ne se sentent pas toujours bien, même si certains ont cette vocation, bien sûr, mais qu'ils sont pas très bien payés globalement, et notamment quand on rentre. Est-ce que il faut avoir la foi pour commencer à aller 1 800 € début de carrière, et vous, bien souvent, on vous envoie dans les établissements qui ne sont pas les plus simples, quoi, non, Elisabeth?
Bah oui, non, mais d'abord, il faut dire, alors il y a ce que vous dites, il y a le fait qu'ils sont pas bien payés, mais là, j'en ai un peu assez d'entendre tout le monde, si vous voulez, on dit la même chose pour les policiers, ah, c'est pas bien, il faut mieux les payer, oui. Mais quand vous dites aux gens, il faudra payer plus d'impôts, alors là, il y a plus personne. Il faut le savoir, si vous voulez, il y a pas un magot quelque part, donc, si on veut mieux payer nos fonctionnaires, alors certainement, on peut faire des économies ailleurs, mais néanmoins, il faut accepter que ce sont nos impôts qui les payent, donc, on peut pas dire on veut moins d'impôts et mieux payer les profs, si vous voulez. Ça peut pas être tout le temps comme ça. Ça,
c'est la première chose. Tout le monde ne dit pas on veut moins d'impôts. Il y en a certains qui disent oui, il doit y avoir en fait des impôts et on doit aller tâcher en fait les plus grands groupes, etc. aussi pour aller chercher de l'argent.
Beaucoup de Français disent qu'ils veulent plus payer d'impôts. Ça, c'est vrai, j'en rencontre tous les jours. Mais il y a une autre chose qui me semble très importante. Pardon, il y a une autre chose qui me semble peut-être encore plus importante, c'est ce qui est devenu le métier. C'est-à-dire, c'est devenu d'abord dans certains endroits, c'est un métier disciplinaire. Vous arrivez dans vos classes, si vous voulez, l'enjeu n'est pas d'apprendre aux gens, de transmettre un savoir, c'est de faire en sorte qu'ils se tiennent à peu près tranquilles. Et je ne vous parle pas des parents qui viennent vous menacer parce que votre enfant a eu une mauvaise note. Je ne vous parle pas du fait que vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie quand vous avez un problème avec un élève. Donc c'est un métier qui a complètement changé. Et dernière chose, juste là je vais très vite, c'est la formation. Parce que il faut bien dire aussi que comme il y a une espèce de crise des vocations, eh bien, on recrute souvent des profs qui n'ont pas passé les concours. Il y a moins de candidats au concours, donc leur niveau est moins bon. Ouais. Et par exemple, en maths, hein, c'est connu, mais c'est aussi vrai dans d'autres matières, nos profs sont de moins en moins bien formés.
Ouais. Michel Taube ?
Il en va des profs comme il en va des policiers. C'est-à-dire, depuis 20 ans, il y a eu des stop and go, il y a eu des mesures, on a supprimé les IUFM, c'est-à-dire justement les instituts de formation des maîtres, et puis après, on les a plus ou moins rétablis. Avec les policiers, c'est la même chose. On supprime les polices de quartier, et puis après, on dit qu'il en manque, et on essaye d'en recruter quelques-uns par-ci, par-là. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de constance des politiques publiques, et puis surtout aussi, l'éducation nationale, je crois que c'est la deuxième administration la plus importante au monde. C'est un mammouth. On se rappelle le ministre qui avait dit il faut dégraisser le mammouth. Donc je pense que c'est pas une question de plus ou moins d'impôts, c'est une question de meilleures dépenses. C'est-à-dire effectivement, peut-être qu'on pourrait faire des économies sur la structure pour mieux payer les profs qui sont sur le terrain.
Ça rappelle un peu le discours qu'on a dans les hôpitaux. On dit c'est peut-être c'est la même chose, il faudrait mettre davantage de moyens pour les soignants et peut-être un petit peu moins pour l'administration.
Dans les hôpitaux, on gaspille des milliards d'euros en recrutant des soignants intérimaires, intérimaires qui coûtent une fortune, qui coûtent 2 à 3 fois plus cher qu'un soignant constant sur un poste. Et sur les enseignants, je suis sûr aussi qu'il y a Il y a certainement de grosses économies d'échelle à faire pour pouvoir effectivement augmenter plus fortement le salaire de nos enseignants. Et c'est vrai que c'est une honte de les payer si peu cher. En Allemagne, les enseignants sont nettement mieux payés. Et ça, quand même, la contrepartie du contrat de travail, c'est le salaire. Ouais. Donc ça commence par là, la reconnaissance de de nos enseignants.
Ouais. Vous pensez que Elisabeth Léville, si les profs étaient un petit peu mieux payés, ça irait un peu mieux ou pas? En tout cas, ça irait dans le bon sens.
Oui,
il faudrait faire avec une distinction entre ceux qui vont dans des établissements qui sont peut-être un petit peu plus difficiles qu'ailleurs ou pas.
Alors je sais pas si, parce que vous savez,
il y a des primes
très égalitaristes,
mais...
si vous commencez à introduire, alors je crois qu'il y a déjà des primes,
mais j'en suis entre pas 600 sûr. Et 1000 euros pour par exemple un nouveau prof qui veut aller dans un quartier qui est un petit peu plus en zone prioritaire, les fameuses zones prioritaires.
Non, mais surtout ce qui serait bien, c'est de pas y envoyer les débutants, en fait. C'est-à-dire que quand
ils ont
des profs sans expérience, il faut un peu d'expérience hein, pour pas paniquer devant ce genre de classe parfois. Donc moi, il me semble que déjà, mais à chaque fois, enfin si vous voulez, ce sont des vieilles lunes. Hein, j'ai entendu ça 50 fois qu'il fallait envoyer les profs expérimentés, qu'il fallait effectivement donner des primes. Moi, je crois qu'aussi la question de l'autorité, c'est un ensemble, et je crois qu'aussi elle est au cœur du malaise des profs. Hein, c'est qu'ils ils n'ont plus cette autorité naturelle, mais parce que effectivement la société les considère moins, leur administration. Encore une fois, rappelez-vous le mouvement pas de vague. C'est-à-dire que quand un prof a un problème, le premier réflexe de la hiérarchie de son établissement et parfois du rectorat, c'est surtout de tout planquer sous le tapis. Si vous voulez. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les profs soient soutenus. Rappelez-vous quand même ce qui s'est passé avant l'assassinat de Samuel Paty. Il s'est fait enquiquiner. Alors je dis pas qu'il a pas du tout été soutenu, mais il s'est fait enquiquiner par des parents, prendre à partie, etc. Il faut que dans ces cas-là, il y ait une réponse de l'administration absolument d'une seule voix et d'une fermeté sans faille. C'est-à-dire, je crois moi l'éruption des parents dans l'école n'est pas une bonne nouvelle.
On sait très bien, Elisabeth Lévy, que Jean-Michel Blanquer, qui avait quelques velléités d'imposer la laïcité comme un des porte-drapeaux de notre République dans les écoles, il a un peu renoncé quand même face à justement des résistances très très fortes au niveau de l'administration. Moi, ce que je veux dire, pour souvent critiquer Emmanuel Macron, je dois quand même dire qu'une des rares bonnes mesures concrètes mises en œuvre depuis qu'il est président de la République, ça a été le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire, au niveau des classes élémentaires, parce que c'est souvent là que tout se joue. C'est une bonne mesure. Il faudrait voir d'ailleurs si ça continue à être bien mis en place, et peut-être qu'on pourrait envisager de l'élargir à d'autres quartiers, parce que malheureusement, les territoires perdus de la République, et notamment Marseille, on va en parler, il faudrait peut-être vérifier si là, dans les jours qui viennent, toutes les écoles des zones prioritaires marseillaises auront bien des classes dédoublées pour la dernière rentrée d'Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer sous ce quinquennat.
Sous ce quinquennat, peut-être pas la dernière. En tout cas, on va en parler à l'heure dans La France à vos côtés, avec vous Cécile,
on va parler
à 10h20.
De l'école et de la violence surtout à l'école vis-à-vis des enfants. On en parlera avec deux spécialistes, hein, Bruno Pommard, que vous connaissez bien, qui est le fondateur du RAID et qui a aussi une association pour réinsérer les enfants par le prisme de du sport, et puis Hassan Amou, qui est fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lutte lui contre les règlements de compte, c'est à Marseille. Donc vous voulez en parler, vous avez des témoignages, 0826 300 300, pour échanger avec nous dans un instant. La suite du programme, continuez de nous appeler, continuez de commenter sur notre compte Twitter. On revient dans un instant, il est 8h58 avec nous.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et puis il y a notre question du jour aujourd'hui, Emmanuel Macron à Marseille pendant 3 jours. On vous demande si c'est utile ou si c'est de la communication. Pour l'instant, vous dites que en masse, plus de 95% à dire que c'est de la communication. Il y a Odile Henriette qui nous dit il faut des forces de l'ordre à Marseille et des actions répressives. Et on nous envoie Emmanuel Macron. Il y a Martial Chevalier aussi qui dit il faut encore balancer des millions qui ne vont rien changer. Le problème n'est pas le manque d'argent. Les problèmes, ce sont tous les trafics. Voilà, et vous continuez de commenter.
On va en parler dans un instant avec... justement nos éditorialistes qui sont là. Michel Taube ce matin, qui est toujours avec nous, fondateur du site Opinion International. Il y avait Elisabeth Lévy. Il va y avoir Cécile Mamelin aussi, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Si on est aussi dans cette ambiance en fait de Marseille, avec cette violence, etc., c'est parce qu'il y a ces trafics de drogue, parce qu'il y a eu ces règlements de compte cet été. Et d'ailleurs, pour certains, certains l'ont perçu encore un peu plus en allant au cinéma, voir ce film qui vient de sortir sur cette histoire aussi de la BAC Nord.
Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini.
Arrête-toi !
Arrête-toi !
Arrête-toi, discute !
Individu en fuite !
Tu serais qui, toi ? Tu serais pas ton insigne ? Tu serais quoi ? Tu serais quoi ? Tu serais rien !
Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler ? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la une du journal pour faire le beau.
Tu veux devenir officier ? Fais cette opération.
Oui, alors je ne sais pas si Emmanuel Macron a vu ce film, mais en tout cas c'est une plongée qui fait froid dans le dos quand même, hein, dans certains quartiers. Alors c'est du cinéma, mais ce n'est pas que du cinéma, parce que c'est à partir aussi d'une histoire réelle, hein,
tout à
Michel
fait.
Taube. Ouais.
Écoutez, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va changer quoi que ce soit à la situation ? Moi je vais vous dire, ouais. Ce qui me choque vraiment aujourd'hui, tout ce qu'il va annoncer, la valse des promesses, le bal des promesses auquel on va avoir droit pendant 3 jours, c'est très bien, on peut y croire, on a besoin de rêver, les temps sont durs, etc. Mais franchement... En mai 2018, devant Jean-Louis Borloo, qui est quand même un des hommes politiques qui a porté une politique de la ville pendant 20 ans, je dis pas qu'elle a marché, mais enfin, il y a 3 ans, il a enterré toute politique de la ville devant Borloo. Il l'a quasiment humilié devant lui. Ouais. Et 3 ans après, à 7 mois d'élection présidentielle, il débarque à Marseille pour dire « Allez, je vais tout changer, je vais tout réformer, je vais vous apporter toutes les solutions comme par miracle. » Franchement, il y a presque quelque chose d'indécent dans le timing choisi par le chef de l'État.
Pour moi,
il est en campagne. Tout ce qu'il va dire sera utile. Les centaines de millions d'euros, espérons qu'ils vont arriver, qu'il y aura plus de policiers, etc. Mais la réalité, c'est que politiquement, il y a un problème de timing. Il est le maître des horloges ou il est... où il a un problème avec son horloge politique.
Cécile Mamelin est avec nous, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour Cécile Mamelin.
Bonjour.
Vous allez nous dire dans un instant ce que vous attendez de ces des mesures et de ce qui pourrait être annoncé et commenter peut-être ce que vient de dire Michel Taube à l'instant. Mais avant ça, comme chaque matin, on a Factuel avec Félix Mathieu pour évidemment essayer de remettre les choses dans l'ordre et puis donner du contexte. Félix, Marseille, par exemple, est-elle sous-dotée en policiers par rapport au reste de la France ?
Eh bien oui, à en croire la municipalité qui juge insuffisantes les promesses de renfort déjà mises sur la table par le gouvernement. 300 policiers supplémentaires en 3 ans. Promis à Marseille, avec déjà 37 gardiens de la paix arrivés en février, puis 64 au mois d'août. Mais on est loin du compte. D'après le maire PS de la ville, Benoît Payan, selon lui, il en faudrait 3 fois plus pour combler le retard accumulé ces dernières années. La municipalité de Marseille qui indique compter grosso modo un policier national pour 700 habitants contre un policier pour 400 habitants en moyenne dans les autres métropoles du pays.
Ah oui, quand même, évidemment, ce chiffre est important. Écoutez, justice, parce que là aussi, on en parlera dans un instant, les magistrats marseillais s'estiment globalement sous-dotés.
Oui, là c'est notamment le président du tribunal judiciaire de Marseille qui en mars dernier dénonçait carrément un risque de déni de justice du fait du manque de moyens, manque de salles, de personnel, de magistrats, une juridiction pénale incapable, disait-il, d'audiencer de graves affaires d'associations de malfaiteurs tout de même, des affaires parfois vieilles de 5 ans et qui doivent encore attendre parfois 2 ans pour un procès. Alors face à ça, le ministère de la Justice a d'ores et déjà annoncé pour la rentrée 11 nouveaux magistrats et puis 62 autres personnels non magistrats dans cette juridiction marseillaise. Mais pour autant, les syndicats attendent de voir. Un audit, en tout cas, a été lancé sur place, tandis que le maire réclame un parquet spécial face au trafic de drogue d'ampleur internationale.
Oui, Cécile Mamelin, donc, sur ce que vient de dire à l'instant Félix Mathieu, vous confirmez globalement c'est un peu ça la situation, notamment pour les magistrats, la justice ?
Oui, pardon, beaucoup de choses très intéressantes, effectivement, et très justes viennent d'être dites. Marseille, c'est quand même la deuxième ville de France, et il est clair qu'à l'instar de beaucoup de juridictions françaises, nous manquons de toute façon de personnel judiciaire. C'est absolument indéniable. Il y a quelques années, la situation à Bobigny avait été décrite par la procureure. Elle avait obtenu 25% d'augmentation d'effectifs au niveau des magistrats. Donc là, je pense que 11 magistrats, je ne sais d'ailleurs pas où les 11 magistrats et de où vont-ils venir. Nous avons noté qu'effectivement, il y avait 8 nouvelles arrivées en septembre, mais il y aurait aussi 6 départs. Donc, je veux dire, il faut mathématiquement compter les arrivées, mais aussi les départs. Ouais. Donc, en réalité, il y aura 2 magistrats de plus. Je pense que le ministre peut-être pense à ce qu'on appelle des juges placés, c'est-à-dire des juges que l'on met temporairement en délégation, qui viennent d'un autre tribunal et que l'on met dans ce tribunal pour un renfort d'effectifs, mais ça n'est pas pérenne, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à durer. Il y a indéniablement un manque flagrant d'effectifs suffisants, parce que j'entends qu'on parle de renforcer les effectifs de policiers, c'est une excellente chose, s'il le faut, effectivement, il faut mettre des policiers, il faut casser ces trafics, il y a une urgence absolue à restaurer l'ordre dans les cités phocéennes, mais s'il n'y a pas, si la chaîne pénale n'est pas complète et si derrière les mesures de police, les dossiers ne sont pas, on ne peut pas les audiencer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs en magistrat, et là je parle bien en magistrat, parce que ce n'est pas la justice de proximité qui va résoudre les trafics de stupéfiants, hein, ce n'est pas un délégué du procureur malheureusement qui va résoudre un trafic de stupéfiants, ce sont des policiers, des magistrats, des greffiers, il faut tenir les audiences, et pour sortir les dossiers.
Oui, c'est ça, Cécile Mamelin. Pour qu'on comprenne bien concrètement, c'est-à-dire que pour que ce soit efficace, quoi, que cette justice, et que souvent on entend des policiers qui disent « bon, bah, ça ne sert pas à grand-chose de les interpeller parce que derrière, ils vont être lâchés, ils ne vont pas être condamnés ».
Le procès en justice laxiste est toujours fait, alors que on a toujours un procès en justice laxiste qui est totalement démenti par les chiffres, hein, ça, on ne va pas revenir là-dessus. Ouais.
Après, ça peut être des questions de moyens.
C'est surtout et avant tout une question de moyens, et d'ailleurs, la plupart des policiers qui travaillent sur le terrain de la police judiciaire savent qu'effectivement nous souffrons d'un manque flagrant de moyens. Donc ça n'est pas qu'on relâche les personnes, c'est que surtout nous les jugeons probablement dans des délais beaucoup trop longs, ça c'est un fait indéniable. Le président du tribunal de Marseille l'a rappelé, vous l'avez très justement dit il y a quelques mois, et ça c'est effectivement insupportable, parce que il faut une réponse rapide, il faut que les moyens soient donnés pour que les réponses soient rapides, et cela malheureusement on ne s'en sort pas. C'est bien une question d'effectifs et de moyens. Je vous rappelle qu'en France, on a 2 fois moins de juges qu'en Allemagne. On a 3 fois moins de procureurs. Donc, créer des parquets spécialisés, pourquoi pas ? C'est bien, il y en a
alors
déjà.
Alors ça, plein, c'est une idée,
parquets spécialisés.
Des parquets spécialisés, ça
c'est une idée, mais il faut mettre des gens derrière. Si vous sortez, si vous créez des parquets spécialisés, j'allais vous dire une expression que tout le monde comprendra, si c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a déjà beaucoup de parquets spécialisés, et je pense que de toute façon, à Marseille, les collègues sont déjà spécialisés. Donc, ça n'est pas un problème de spécialité, c'est surtout un problème d'effectifs en termes de magistrats et en termes de greffiers.
Oui, et puis parce que on dit souvent du côté des magistrats et des policiers, en fait, à Marseille, que c'est tellement bien organisé de l'autre côté, chez les trafiquants, qu'il faut être sacrément organisé en face pour être capable de mener, en fait, les enquêtes et puis ensuite d'avoir la démonstration pour pouvoir remonter les réseaux, quoi, aussi, hein.
Voilà, tout à fait, parce qu'il ne sert à rien de s'attaquer effectivement aux petits dealers du coin si on ne s'attaque pas aux têtes de réseau. Et on constate que malgré les interventions coup de poing des policiers, hein, qui font un travail de terrain de qualité, formidable, etc., qui essayent, qui ont effectivement progressé dans l'investigation judiciaire, mais malheureusement, si le reste ne suit pas, et puis c'est surtout que dès le lendemain, les choses reprennent. Dans les cités, il y a effectivement énormément de monde mobilisable, et dès que la police effectivement a tourné le dos, le trafic reprend. Donc, je pense que c'est tellement un problème qui dépasse en réalité la seule chaîne pénale, c'est aussi un problème de politique de la ville, c'est un problème d'éducation nationale. Tout le monde est effectivement à Marseille, je pense, concerné du début à la fin. Et nous n'intervenons, j'allais vous dire, nous sommes les derniers, nous sommes un petit peu là. Nous sommes la dernière issue, la dernière possibilité de casser le système. Et c'est presque trop tard quand ça arrive chez nous, en fait. Trop tard.
Non, mais c'est vrai, Cécile Mamelin, merci, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Et pour rebondir sur ce que vous dites et pour l'attester, nous serons d'ailleurs en ligne dans la France à vos côtés tout à l'heure avec des associations qui travaillent sur le terrain, qui mènent des actions avec des enfants dans les quartiers. Cécile, vous recevrez deux acteurs, en fait, hein, tout à l'heure en ce sens.
On va recevoir Bruno Pomard, que vous connaissez, qui officie pas mal avec les jeunes, qui les réinsère par le
c'est
sport.
C'est un ancien policier du RAID. Hein.
C'est un ancien fondateur du RAID, oui, exactement. Et Hassen Amou, qui est fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lui lutte carrément contre toute forme de violence dans les quartiers et qui fait un travail formidable.
Qui est à Marseille, justement. Nous serons avec lui tout à l'heure. Avant, Michel Taube, ça réagit au 0826-300-300. Qui est avec nous ? C'est Paul, je crois, hein.
Oui, bonjour.
Bonjour, Paul.
Bonjour. Ben moi, je pense que Macron, mais il ferait mieux de rester à Paris, parce que là, Macron part à Marseille. On a l'impression qu'il a pris des armes et qu'il va en Afghanistan libérer le pays, quoi. Marseille, c'est la deuxième ville de France.
Ouais.
Aujourd'hui, ben, c'est la déshérence parce qu'il y a une immigration incontrôlée à Marseille. Ça commence par là. Mmh. Déjà, il faudrait quand même regarder. Il y a une communauté comorienne, marocaine, tout ça qui est très importante.
Ouais.
Et aujourd'hui, quand on voit que le Maroc augmente la production de cannabis, là, je pense qu'il y a une réponse politique à faire, déjà, de ce côté-là.
Mmh.
C'est inadmissible, quoi. C'est inadmissible. Le Maroc, c'est pas l'Afghanistan. Mmh. Le roi du Maroc, il peut prendre des décisions autres. Ensuite, Marseille, ben, ça a été abandonné. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un peu insoluble de vouloir convertir au travail et autres des gens qui gagnent des milliers d'euros par semaine. On va pas les mettre à travailler au SMIG. Ensuite, la magistrate, elle est bien gentille.
Elle vous entend, Cécile Mamelin.
Elle a oublié juste un détail.
Il n'y
a pas de place de prison en France. Quelles que soient les décisions qu'ils prendront, il n'y a pas de possibilité d'incarcérer les gens. Ça commence par là aussi. À un moment
alors,
donné,
bah elle va vous...
il faut que toutes les peines puissent aller vers une condamnation, si ça me le mérite. Et là, on ne peut pas. Les prisons sont surchargées. On ne peut pas mettre 15
personnes. Alors, elle va vous répondre. Bonne réflexion. Cécile Mamelin, vous avez entendu Paul, en fait, à l'instant, sur Sud Radio.
Oui, alors, je ne vais pas contester, effectivement, votre auditeur, hein, dans le sens où, effectivement, il y a une surpopulation carcérale, mais jamais un magistrat n'incarcérera pas un individu s'il estime qu'il doit être incarcéré. Et il n'y a pas ce qu'on appelle de quota en France. J'ai vu ces choses-là dernièrement dans la presse, mais quelle est cette idée de quota ? Bien évidemment, les lois n'incitent pas forcément à incarcérer en premier lieu. La peine de prison, ça n'est pas quelque chose qui effectivement est conçu par le législateur, mais ce n'est pas par le magistrat, par le législateur. C'est-à-dire que les politiques considèrent qu'effectivement, et c'est aussi prouvé par des études, c'est que la réponse pénale première ne doit pas nécessairement être la prison. Mais si les magistrats estiment que l'individu doit être placé en détention, je peux vous assurer qu'il va en détention.
Oui, voilà. Merci.
Alors après,
merci.
Il y a un autre sujet sur les conditions indignes, bien évidemment.
Ça, c'est
à un moment donné, la France, elle doit prendre ses responsabilités.
On a construit
des places de prison. On a construit des places de prison, et jamais, je peux vous assurer qu'en France, on ne viendra dire qu'un magistrat n'a pas le droit d'incarcérer parce que la prison est surpeuplée. Il le fera. Et si c'est pas possible, ce sera dans une autre prison.
Ouais. Merci, Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Merci aussi à vous, Paul. Vous pouvez continuer de réagir 0826 300 300, parce qu'on en parlera tout à l'heure dans la France à vos côtés à 9h moins le quart. On va rester et débattre d'autres sujets dans un instant aussi avec Michel Taube. On va revenir sur les centres commerciaux.
Ah oui,
vous savez aussi sur le pass sanitaire. C'est toujours en fait extrêmement compliqué.
Qui visiblement crée des problèmes sur le trafic.
Et puis le Qatar. Et le Qatar aussi tout à l'heure avec Michel Taube et son édito très intéressant ce matin dans Opinion Internationale.
Il est 9h18. Restez.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, aux alentours de 9h45, ce sera la France à vos côtés. On reviendra sur l'école et l'insécurité, la violence en milieu scolaire. On en parera avec Bruno Pomard, maire de Belleflou dans l'Aude et ancien fondateur du RAID. Et puis ce livre, Quartier non prioritaire de la politique de la ville, aux éditions Panthéon. Et on en reviendra aussi avec Hassène Amou, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lutte contre toutes ces fusillades liées à la drogue à Marseille. Voilà,
oui.
Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. En attendant, on revient sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux suspendus dans plusieurs départements.
Oui, parce que vous l'avez entendu sans doute tout à l'heure, nous avions un représentant des centres commerciaux où évidemment la fréquentation a chuté depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Déjà, ça n'allait pas très bien évidemment dans les centres commerciaux puisqu'il y a eu du confinement. Et là, la situation est assez difficile. Alors, donc, il y a eu des suspensions. Johan Sibyl est avec nous, avocat au barreau de Versailles. Bonjour, Johan Sibyl.
Bonjour.
Donc, vous avez été saisi, vous déjà, et aidé des centres commerciaux, si je puis dire, avec des recours en justice. Et depuis le premier que vous avez gagné, notamment pour les Yvelines, il y a 10 jours, eh bien, il y a eu d'autres suspensions également, quoi, hein.
Effectivement, et la dernière en date dans les Hauts-de-Seine hier, une très belle décision, très argumentée.
Enfin, très belle pour vous, hein, peut-être pas pour tout le monde.
Alors oui, je comprends tout à fait, mais très belle sur le plan juridique, parce qu'elle est très motivée. En fait, le président a pris beaucoup de temps pour rendre sa décision, mais il a bien fait, puisqu'il a répondu à l'ensemble des arguments qui ont été mis sur la table. Ouais. J'attends ce matin le Val d'Oise et Paris.
Oui, parce que finalement, quelle est votre argumentation pour suspendre ces arrêtés, donc ces passes sanitaires à l'entrée des centres commerciaux? Et on le sait, le délégué tout à l'heure des centres commerciaux nous disait, c'est terrible pour nous parce que avec cette chute de la fréquentation en pleine période de rentrée, ben, le chiffre d'affaires descend, quoi.
En moyenne 30% les clients que j'ai dans les centres commerciaux. Moi, à mon sens, là, on est presque sur une problématique de respect des institutions. Alors, vous allez dire que c'est un peu fort, mais en fait, vous avez le Parlement qui vote des lois, et ces lois, elles doivent être respectées. J'ai contacté ce matin les parlementaires qui ont été rapporteurs du texte pour leur signaler ce problème. Pour leur signaler le fait qu'ils ont voté une loi extrêmement claire début août et que cette loi est délibérément violée par les préfets. Je vais vous donner une précision. Hier, le préfet de la Gironde, donc de Bordeaux, a repris un nouvel arrêté alors que vous avez vu le contexte en ce moment de suspension de ces arrêtés. Il a repris un arrêté qui est à nouveau pas conforme. Donc là, on est clairement dans une démarche délibérée.
Mais alors, ce que je comprends pas, c'est la loi est claire. La loi, elle est claire sur quoi, alors?
Elle est claire sur le fait que l'accès aux biens de première nécessité, c'est dans l'enceinte des centres commerciaux et pas à l'extérieur. Voilà. Et je vais même plus loin. C'est que le Conseil constitutionnel, qui est la plus grande autorité en France, la plus haute autorité en France, l'a écrit dans sa décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préfets ne respectent même pas la décision du Conseil constitutionnel. Ouais. Donc, sans vouloir politiser, c'est quand même important. C'est un sujet véritablement important qui mérite d'être saisi aujourd'hui, je pense, par les hommes politiques.
Oui, voilà. Ouais, alors c'est vrai que pour aller au petit supermarché, en fait, du coin, grosso modo, il n'y a pas besoin, alors que pour aller au supermarché, à l'hypermarché, qui est dans un centre commercial, bah, il faut le pass sanitaire, quoi.
Je vais même vous donner un autre exemple. Sur Paris, je pense que vous connaissez bien, les Halles, c'est ouvert. Voilà, les Halles, qui est un centre immense. Hein.
Ah bah c'est un centre commercial, oui. Pourquoi c'est ouvert, alors?
Eh bien, je ne sais pas.
C'est ouvert parce qu'il n'est pas considéré en soi comme un centre commercial. C'est considéré comme un espace plus ouvert, alors qu'en fait, vous avez tout à fait raison, c'est un lieu de passage et de brassage considérable de la population, avec des risques évidemment de contamination.
Voilà. Et c'est la même chose pour la Défense, que vous connaissez aussi. Ouais. Donc, comment comprendre ça? Comment on peut comprendre de pareilles décisions? C'est impossible.
Ouais. Donc, alors, c'est pas fermé ou ouvert, c'est la question du pass sanitaire.
Bien sûr.
Michel Taube.
On est d'accord.
Moi, je suis plutôt pour le pass sanitaire, mais je reconnais une chose, c'est que depuis un an et demi, il y a une sorte, la politique de l'État a réussi une chose incroyable, c'est une sorte de confinement des esprits. Le fait qu'il y ait une baisse d'activité de 30% et qu'on voit pas que dans les centres commerciaux, on le voit aussi dans beaucoup de restaurants et de lieux qui sont touchés par le pass sanitaire, c'est que ça a finalement conduit beaucoup de nos concitoyens à se replier sur eux-mêmes, à rester chez eux, à moins sortir, aller moins dans des lieux de brassage et de déplacement. Et je pense qu'il y a une sorte de confinement des esprits qui est en train de s'instaurer dans nos têtes et qui est extrêmement inquiétant, non pas en termes de liberté, mais en termes de vie sociale. Termes de manière de vivre. Bruno Le Maire s'enorgueillit qu'il y ait une explosion de l'activité économique, les cartes bleues marche à fond, et donc il dit la reprise est là. Mais la réalité, c'est que tout se fait beaucoup sur Internet maintenant. Il se fait moins dans les magasins, se fait moins dans les restos. On fait beaucoup plus on commande son resto à domicile. Et donc tout ça, ça change. Et je pense que les choix qui ont été faits par le gouvernement et ont malheureusement beaucoup contribué.
Johan Sibylle, vous avez beaucoup d'autres recours qui sont lancés ou pas?
Donc là, j'attends Paris et le Val d'Oise, et j'ai lancé donc à Bordeaux et à Grenoble.
Et est-ce que, nous en parlions tout à l'heure aussi avec le délégué des centres commerciaux, il y a des discussions qui ont été entamées avec le gouvernement. Alors pour le gouvernement, c'est difficile de reculer, mais vous pensez que d'ici la fin de la semaine, il pourrait y avoir peut-être une suspension au niveau national, justement, de ces passes
Je le souhaite très vivement, puisque en fait le gouvernement, c'est le supérieur hiérarchique de tous les préfets. C'est lui qui a le pouvoir de faire ça.
Mais l'État ne va pas faire appel de ces décisions de justice?
Si, il y a un appel. Qui vient d'être fait.
Alors, mais quand il y a appel, malgré tout, c'est suspendu. C'est-à-dire que vous allez dans un centre commercial qui est concerné, là, vous n'avez pas besoin de montrer le pass sanitaire. Merci, Johan Sibylle, parce que je sais que vous êtes pris, vous avez beaucoup d'affaires encore à traiter, avocat au barreau de Versailles. Merci d'avoir été avec nous. Michel Taube, dans un instant, avant de parler donc dans la France à vos côtés avec Cécile, justement des violences. Comment faire avec les jeunes pour essayer de les sortir de cet engrenage? ménages dans certains quartiers, on va en parler. Vous allez parler aussi finalement des quartiers un petit peu, avec la mise en place d'une politique qui remonte à 2007 avec Nicolas Sarkozy et le recours au Qatar.
Tout à fait.
Bien sûr, on voit ça, c'est votre édito ce matin dans Opinion Internationale, restez avec nous.
Il est 9h28, si vous voulez nous appeler 0826 300 300, et puis on va lancer le jeu, Patrick, allez vite fait.
Ah bah oui.
Allez, on va vous offrir deux jours et deux nuits, bien sûr, dans le parc Port Aventura, pour deux adultes, deux enfants de moins de 12 ans. Vous allez pouvoir faire des attractions, vous allez voir, c'est un jeu d'eau, il faudra prendre votre maillot de bain, n'oubliez pas. 0826 300 300, donnez-moi un chiffre entre 0 et 20.
Allez, c'est parti pour le 16e appel.
16e appel au standard,
0826 300 300,
et vous serez certainement le grand gagnant ce matin, 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h32, merci d'être avec nous. Michel Taube est toujours avec nous, hein, fondateur du site Opinion Internationale. Et on va revenir sur son édito, justement.
Oui, autour du PSG, enfin des éléments d'actualité, en fait, particulièrement importants, c'est-à-dire le PSG, parce qu'on en parle beaucoup avec l'argent des Qataris pour retenir ou acheter des joueurs, Mbappé, bien sûr, Kaboul, avec ce qui se passe actuellement, et donc les talibans, et les négociations qui ont lieu du côté du Qatar. Parce que ce que vous dites, c'est la grande taquia géopolitique des talibans et du Qatar. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait?
La taquia, dans l'islam, c'est cet art de la dissimulation, ouais, qui permet de se présenter de façon très présentable à quelqu'un et, en fait, d'avoir une stratégie de contournement et de dissimulation de ses convictions les plus profondes pour pouvoir mieux les imposer ensuite. C'est la stratégie des frères musulmans, c'est la stratégie qu'Erdogan a magistralement réussi en Turquie, et qui fait que la Turquie est passée d'un pays laïque à un pays islamiste très très rigoureux en 10 ans, avec cette politique-là. Or, ce que je dis, c'est que le grand vainqueur, ouais, de ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul, ouais, c'est pas que les talibans, ouais, c'est le Qatar. Pourquoi ? Parce que le Qatar a, depuis des années, joué un double jeu. À la fois d'être présentable sur la scène internationale, en se payant le PSG, en se payant une présence aussi dans les médias français.
Bah, bien
sûr.
Faut
même rappeler que le Qatar est actionnaire à 3-10% du groupe Lagardère,
ouais,
qui est propriétaire de nombreux journaux français. Mmh. Donc le Qatar a à la fois une stratégie de soft
power.
Le Qatar
va accueillir la Coupe du Monde,
de football l'année prochaine. Donc,
le Qatar, tel point qu'on va changer les modalités, puisque ça va avoir lieu l'hiver au lieu de l'été.
Absolument. Ouais. Dans des stades flambant neufs qui sont une gabegie sur le plan environnemental, parce que quand même il va faire très chaud, même si ce sera au mois de novembre, et que pour maintenir une température à peu près adéquate, c'est des investissements colossaux et une atteinte à l'environnement considérable. Mais c'est pas tellement ça. Maintenant, ce qui pour moi est important, c'est de bien comprendre que ce double jeu, à la fois d'être présentable sur la scène internationale et en même temps, le Qatar est très proche des talibans, de l'Iran et de la Turquie. Or, figurez-vous que quels sont les deux pays qui séparent l'Afghanistan du territoire de l'Union Européenne? Combien y a-t-il de pays qui nous séparent de l'Afghanistan? Ouais. On dit toujours l'Afghanistan, c'est à l'autre bout du monde.
Non,
il n'y en a que deux. Il y en a que deux. C'est l'Iran et la Turquie, qui sont des alliés du Qatar. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on vit dans un monde bipolaire. Pas bipolaire au sens où c'est la Russie ou la Chine contre les États-Unis. Bipolaire au sens médical du terme. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une opposition aux talibans et à des régimes qui sont moyenâgeux, contre les femmes, pour la peine de mort, etc. Et en même temps, on a des pays comme le Qatar qui sont des alliés de la France, qui sont présents en France, qui sont propriétaires du PSG, qui se payent Messi à un prix d'or, qui se payent le luxe de ne pas laisser partir Mbappé en se privant de 150 ou 180 millions d'euros, et qui en même temps sont les alliés objectifs et plus
oui, parce que comment ils sont alliés véritablement? Est-ce qu'ils le sont?
Alors,
les talibans?
Ils sont idéologiquement.
Les talibans.
Ah si, ils ont quand même accueilli pendant des années des pseudo-négociations à Doha,
oui,
des talibans avec les États-Unis et la communauté internationale, dont on voit bien combien on a été dupés, mais littéralement dupés par les talibans, qui pendant qu'ils discutaient à Doha étaient en train de prendre le pouvoir à Kaboul, et ça les Qataris le savent bien. Donc je veux dire. Et à la fois, le Qatar joue un rôle un peu, je discute avec tout le monde, c'est eux aussi qui payent les salaires des fonctionnaires du Hamas, le Hamas étant reconnu comme une organisation terroriste par la communauté internationale. Donc, ils ont ce double jeu, et c'est ça sur quoi moi je voulais insister dans mon édito. Ne soyons pas dupes. Nous avons un problème, c'est que, et ça va même plus loin. Nicolas Sarkozy, que par ailleurs j'apprécie beaucoup et qui a été à mon avis un bon président de la République pour notre pays, enfin il a quand même ouvert les portes de notre
pour
pays.
Pour vous, c'est pas le cas pour tout le monde.
C'est mon point de vue.
Oui, oui.
Et alors, donc, au Qatar, en 2012, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, il a accepté 100 millions d'euros de financement du Qatar pour financer un fonds de soutien aux jeunes entreprises françaises dans les banlieues. Mmh. Je dis que tout ça, c'est toute une histoire. Mmh. Où en fait vous avez des pays comme le Qatar, ils ne sont pas les seuls, il y a aussi les Émirats Arabes Unis, il y a l'Arabie Saoudite, tous ces pays du Golfe qui ont une stratégie à la fois financière, économique, mais qui ont aussi une stratégie idéologique de diffusion d'un islam rigoriste, d'un islam proche des frères musulmans, d'un islam proche des salafistes, et qui est aussi présent sur notre territoire. Donc lorsque on crie bravo Messi, et moi je suis content en tant que grand petit enfant qui adore le foot et qui effectivement a rêvé avec les buts
soyons
lucides, et le grand vainqueur de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est le Qatar, et le Qatar c'est un acteur de la société française aujourd'hui, malheureusement c'est la réalité, et il faut qu'on en prenne conscience, et que nos politiques peut-être se positionnent là-dessus dans cette période électorale qui commence.
Oui. Parlons vrai, Michel Taube, merci. Opinion internationale, c'est une lettre sur Internet.
C'est un site Internet
où on peut s'abonner. Les chefs d'entreprise ou les particuliers peuvent s'abonner.
Tout à fait.
Et c'est du parlons vrai pour le coup, comme sur Sud Radio. Merci en tout cas d'être venu ce matin dans les grands débats du matin. Et ça va se poursuivre jusqu'à 10h avant de retrouver Valérie Expert et ensuite André Bierkoff dans un instant avec la France à vos côtés, Cécile.
Oui, la France à vos côtés. On reviendra sur la violence à l'école. Et chez les ados, bien sûr, et dans la rue, bien entendu, avec Bruno Pomard, qui est ancien fondateur du RAID et qui aujourd'hui est maire, donc il est aussi sur le terrain, il a une association, donc il travaille justement avec ces jeunes pour essayer de les remettre dans le droit chemin par le sport et par la droiture, en tout cas, de faire en sorte que ces gamins se sentent récompensés et tenus. Et puis, Hassem Hamou, qui est avec nous aussi, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lutte contre les violences dans les quartiers de nord de Marseille et qui a interpellé d'ailleurs le préfet de police au mois de juillet pour demander des actions concrètes.
Donc ça c'est dans 3 minutes. Juste avant ça aussi, il y a notre gagnant qui est avec nous de PortAventura. Qui est à l'appareil ?
Allô, bonjour.
Bonjour, c'est Pierre à l'appareil de Toulouse.
Pierre de Toulouse.
Bon, vous n'avez pas gagné.
Pas pourquoi ?
Finalement. Non, non, parce qu'il y a eu erreur, ce n'est pas le 16e appel, ouais, c'était le 17e.
Pierrette de Lourdes.
Non, évidemment, on plaisante. Oui.
Pierre, vous faites quoi dans la vie, Pierre ? Ça dépendra de votre métier, allez-y.
Oui, je suis retraité de la restauration.
Voilà. Et qu'est-ce que c'était quoi comme.
J'ai eu la chance de vous servir, madame, à Toulouse.
Mais non !
Mais si.
Mais quand vous dites à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans, bah dites-moi.
Mais pas 1000 ans, il y a quelques années en arrière.
Et j'étais sympa ou pas ?
C'était très sympa.
D'accord, très bien. Et bah écoutez, je suis très très heureuse de vous avoir en ligne en tout cas et de vous offrir ce joli cadeau.
Vous vous souvenez pas de Pierre qui vous avait servi ?
Mais on était très proches avec Pierre.
Le soleil se souvient, ce ne sont pas des fourmis, monsieur.
Mais pas du tout, mais absolument que si, absolument, absolument si. Et rappelez-nous le nom du restaurant.
C'est la Villa Tropézienne.
Ah mais oui ! Mais oui ! Très bien, très, très sympa. Très bonne ambiance.
Visiblement, vous lui avez fait des faits, la Villa Tropézienne.
Très bonne ambiance dans ce restaurant.
Voilà, c'était le restaurant.
Tout est blanc, tout est beau, tout est magnifique. En tout cas, Pierre, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui et de vous offrir ce joli cadeau offert par Sud Radio et PortAventura et le parc Ferrari Land. Vous allez pouvoir partir à deux. Voilà, avec deux adultes, deux enfants, et puis pour un séjour de deux nuits et trois jours, je vais y arriver. Voilà, on est très heureux de vous l'offrir. Vous m'avez ému. Ça me rappelle tellement de souvenirs.
Voilà, je vous remercie. Merci Sud Radio. Et quand j'étais jeune, je venais chercher des autocollants dans une rue où il y avait Sud Radio.
On va vous envoyer en même temps.
Avant que vous déménagiez, vous partiez sur Paris.
On est partout. On n'est pas sur Paris, on est partout, nous, Pierre.
D'accord.
C'est la radio, effectivement, qui est sur toute la France, partout, sur tout le territoire, dans toutes les villes. Et on n'est pas une radio parisienne ou une radio.
Nous, on préfère être en région.
Oui, oui.
Voilà, on aime les régions. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Pierre.
On vous embrasse.
D'avoir joué. On vous souhaite une bonne journée. Restez avec nous dans un instant, la suite du Grand Matin Sud Radio. On parlera de la violence à l'école. Restez là, il est 9h41.